Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Salut à toi qui pédale, bonjour à vous tous qui ne pédalez pas. Il est 14h, c'est Rayon libre et nous sommes en direct aujourd'hui. Cette semaine, le vélo jusqu'à Tokyo. Mais avant, des merci comme d'habitude et une annonce aussi. Une annonce, cet épisode est accompagné par la marketplace bicycle.com. Bien plus qu'un site internet, Bicycle est la plateforme qui vous permet d'acheter ou vendre un vélo d'occasion sans vous soucier de rien. Trouver son futur vélo, c'est simple, se le faire livrer encore plus. Et puisque Bicycle se positionne en tiers de confiance entre l'acheteur ou l'acheteuse et la vendeuse ou le vendeur, et ben acheter et vendre un vélo d'occasion ou reconditionné devient aussi facile que se cuire un œuf à la coque. 3 minutes hein, pour un œuf à la coque. Vous retrouverez aussi un résumé de cette émission sur wheels.west-france.fr. Et puis les merci aussi. Merci à Abel Guggenheim, toujours fidèle, toujours aiguisé. Merci à l'association Libre à toi qui héberge cette émission et qui nous donne les moyens de vous causer. Mais merci à vous aussi, auditeurs et auditrices qui nous écoutez, qui partagez, qui commentez, partagez, likez, faites la propagande, commentez, faites découvrir, soyez curieux. La première fois, il y a toujours une première fois, quand on vous refuse l'entrée d'une boîte de nuit, prétextant c'est réservé aux habitués, la tentation de répondre laissez-nous rentrer, on prend une bouteille, ainsi on devient des habitués. Mais à quoi bon répondre ceci, il y a toujours une première fois, ce n'est pas toujours la meilleure expérience, mais c'est une dont on se souvient, ou pas. Par exemple, je ne me souviens pas de ma première fois sans les petits trous sur mon vélo, aucun souvenir, ni de ma première gamelle, aucun souvenir. Par contre, je me souviens bien de mon premier voyage à vélo, c'était Brisbane, Sydney, un peu plus de 1000 km sur un vélo trop petit, pas roulant, trop chargé. Est-ce que c'était bien? Ouais. Et c'est aussi la première fois où j'ai dû réparer une crevaison. En matière de vélo, c'est ça qui est formidable. Il y a une infinie de possibilités de première fois. Par exemple, je n'ai jamais été une seule fois sur une rampe de BMX freestyle. Le ferai-je un jour? Je ne sais pas. Mon invité du jour, Florian Tito.
Et Florito.
Florito, c'est sa première fois. La première fois qu'il part en voyage à vélo. Est-ce la première fois qu'il va bivouaquer, devoir réparer une crevaison, monter un tel projet? Il va nous raconter. Bonjour Florian, merci d'être avec nous au micro aujourd'hui.
Bonjour Jérôme.
Alors Florian, je vous rencontre au Festival du film d'aventure qui était organisé il y a 15 jours au 104 par Terre d'Aventure. Et vous allez à ce festival, pourquoi? Pour vous inspirer, pour identifier comment votre périple pourrait faire l'objet d'un film?
Exactement, j'y vais tout d'abord pour rencontrer Cédric Tassan.
Oui.
Qui sort son film Vrang pour
on
m'inspirer.
On a reçu ici, hein, Cédric.
Exactement. Et pour voir un peu de paysage avant de me lancer à mon tour jusqu'au bout du monde.
C'est votre premier trip à vélo?
C'est le tout premier. J'ai commencé le vélo de manière sportive, on va dire, il y a à peine 8 mois. Et j'ai annoncé mon projet il y a 9.
Sur un pari un peu yo ou pas?
Sur une envie qui paraissait idiote au début et qui ne l'était plus à la fin, en fait.
Vous pourrez le dire dans un an, quand vous serez arrivé ou pas, si c'était une idée idiote.
Et ben, je pense pas. En tout cas, j'espère pas, mais le projet est né par quelque chose qui semblait fou et impossible.
Ouais.
J'ai rencontré au final plein de voyageurs qui l'avaient fait aussi et qui m'avaient dit que c'était fou et impossible, mais que les souvenirs étaient aussi fous et impossibles et qu'il n'y avait que si on se lançait qu'on pourrait vivre ça. Alors je me suis dit, pourquoi pas moi? J'ai un an. Alors, jusqu'à où est-ce que je peux aller en vélo? Et on se rend compte qu'il n'y a pas trop de limites. On peut aller hyper long en vélo et en un an, c'est un luxe incroyable.
Vous disiez, vous vous êtes mis au vélo sportif il y a à peine un an, ça fait 8 mois, c'est ce que vous venez de me dire. Vous vous souvenez, vous, de vos premiers tours de roue à vélo?
Je m'en souviens, j'ai fait 150 km quasiment Paris-Rouen.
Ouais, mais votre premier tour, vos premières fois sans les roulettes, quand vous étiez bébé.
Sans les roulettes? Ben, je me souviens que je devais porter une sorte de harnais parce que je partais trop loin. Donc mon père me gardait en harnais pour pas que je parte trop loin.
Il vous mettait en laisse.
J'étais en laisse et lui en vélo. Donc.
Ouais. Et donc là, vous me répondiez quand je vous demande si vous vous souvenez de votre première fois, vous me répondez 150 km, c'est la première fois que vous partez sur un trip en vélo sportif, 150 km pour commencer.
Ouais, je pense que j'étais un peu trop ambitieux et mes genoux s'en souviennent et mon kiné aussi du coup.
Ouais, et c'est pareil, ça m'amène à la question suivante, Paris-Tokyo à vélo, est-ce qu'il n'y a pas plus accessible comme premier périple à vélo?
Il y a forcément plus accessible. À l'origine, je voulais faire Paris-Amsterdam.
Ouais.
Et en fait, le saut vers l'inconnu, je pense que c'est ça qui me plaît. C'est de me dire que c'est peut-être trop gros pour une première fois. Ou c'est peut-être pas et je vais complètement être capable de le faire. Mais je préfère voir plus simple. Moi, je m'imagine vraiment... La première partie du voyage, c'est Paris-Istanbul. Ouais. Du coup, ça paraît plus raisonnable d'un coup.
Ouais. Et alors justement, hein, je disais en intro, quand je vous rencontre à ce festival, vous êtes accompagné de Jean-Pierre Giorgi, qui est en charge du journal, notamment de la Fédération Française Vélo. Et vous me disiez que la FF Vélo vous accompagne dans ce voyage, hein, c'est ça? Mais comment il vous accompagne?
Alors, c'est encore en discussion. La FFF, la Fédération Française de Cyclotourisme, donne des bourses. Ils ont des lauréats chaque année sur des jeunes projets vélo qu'ils accompagnent. Et donc, je candidate... pour, je l'espère, avoir une bourse pour que ça m'accompagne dans le financement du projet.
Et alors justement, puisque vous parlez de financement de projet, c'est quoi, puisque c'est votre premier périple à vélo, vous tablez sur quoi comme budget?
Alors le budget, il est assez costaud parce que je dois acheter tout premier vélo de voyage.
Ouais.
J'ai mis un certain prix, partir avec de la qualité, quelque chose de durable, facilement réparable.
Ouais.
Un vélo en acier robuste qui m'amènera jusqu'au bout du monde. Il y a tout le matos de camping, tout le matos vidéo, parce que le but, c'est tout documenter tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc drone, caméra, iPhone, micro.
Ouais.
Donc ça nous fait un total de quasiment 20 000 euros que je finance par mes frais personnels, parce que je travaille depuis déjà 2 ans pour en mettre de côté pour ce projet, et par la recherche de partenaires, de sponsors ou de bourses comme celle... de la Fédération Française de Cyclotourisme.
Alors, vous dites que ça fait 2 ans que vous travaillez, les auditeurs et les auditrices, ils ne voient pas, mais moi je vous vois, vous avez une tête de bambin quand même, mon cher Florian. Quel âge vous avez?
J'ai 24 ans.
24 ans, donc vous vous êtes mis au boulot il y a 22 ans, juste après en sortant des études?
C'est ça, j'ai fait mes études dans l'alternance, ça m'a permis de mûrir le projet, et de me dire, c'est bon, il faut que je parte à l'aventure. Et en fait, au moment de signer mon CDI, j'ai dit à mes patrons, écoutez, je veux bien signer une durée indéterminée, mais par contre je vais déterminer une durée de congé. Ouais. J'aurais dit je signe que si je peux partir 1 an jusqu'au bout du monde.
Et alors ils vous ont dit oui?
Ils m'ont dit oui, à seule condition que je revienne.
Ouais.
Donc ils croisent les doigts pour que la fin du projet je revienne.
Et est-ce qu'ils vous sponsorisent en tant qu'employeur pour vous accompagner dans votre démarche ou pas?
Alors c'est l'objectif, on est en discussion ensemble pour qu'ils soient un des sponsors principaux du projet. Je l'espère en tout cas, s'ils m'écoutent...
on peut leur faire coucou, vous pouvez même les citer si vous voulez.
C'est la société Kumo qui fait des produits japonais notamment, et c'est ce qui m'a fait découvrir cette passion pour la nourriture, et qui me permet d'aller encore un peu plus loin, c'est que je pars pour lever des fonds, pour Action contre la faim, et c'est notamment en travaillant dans le milieu alimentaire que je me suis dit que bien manger était un droit et que je voulais... en tout cas promouvoir ce droit-là durant ce projet de vélo.
Donc il y a au-delà d'un objectif personnel de partir découvrir le monde, il y a un objectif plus solidaire, c'est ça? C'est de lever des fonds?
Exactement.
Donc vous mettez en ligne une cagnotte pour ça?
J'ai une cagnotte directement sur le site d'Action contre la faim.
Ouais.
Et l'idée c'est promouvoir le vélo par tous ces épisodes sur Instagram, TikTok, etc., LinkedIn, YouTube. Mais d'avoir une cause plus forte que moi, je sais que dans des moments d'extrême difficulté, j'aurais besoin de me raccrocher à quelque chose de plus grand. Et je pense que lever des fonds pour une cause qui nous tient à cœur, ça nous permet de pousser un peu plus fort sur les pédales dans les côtes, et notamment dans la région du Pamir, qui, d'après le film de Cédric Tassan, est un peu compliqué.
Et un peu le morceau, le gros morceau, quoi.
C'est un peu le gros morceau du projet, ouais.
Je vous avais quand même commencé presque à répondre à la question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce qui vous fait le déclic? Qu'est-ce qui vous donne le déclic? Allez, je pose 1 an pour partir à vélo. Et après, la question, c'était à Tokyo. Alors à Tokyo, vous venez d'y répondre c'est notamment votre employeur qui est dans la nourriture japonaise, hein, c'est ça? Mais c'est quoi le déclic en vous disant, mais il faut que je parte, il faut que je vive un truc?
Eh ben, ce déclic, il m'arrive, j'ai 22 ans à l'époque, je rencontre un voyageur à vélo qui s'appelle Clément Nothomb, qui part, lui, jusqu'au Vietnam pour les enfants du Mékong.
Ouais.
Je le rencontre à une expo photo et je vois quelque chose dans son regard, quelque chose qui a changé, qui a bouleversé sa vie. Je me dis, je veux ressentir la même chose, comprendre ce qu'il a vécu. Et lui a traversé l'Iran, l'Inde. Il me parle de ça, le plus beau voyage de sa vie. Il a vécu une hâte, c'était de repartir. Et donc, au début, je me suis dit, je suis pas capable de le faire. Et en fait, on a échangé ensemble. Et dans son discours, était, mais si, lui, il ne faisait pas de vélo avant de partir.
Ouais.
Et c'est ce qui m'a fait me dire, je vais me mettre au vélo et je vais partir jusqu'au bout du monde, même si à l'origine, c'est pas mon sport de prédilection. J'ai appris à changer une chambre à air il y a 6 mois, à dévoiler une roue il y a 2 semaines.
Ouais. Justement, c'est intéressant, ça, vous prenez des cours de mécanique pour être le plus autonome possible?
C'est ça, ouais. Je suis avec la recyclerie qui est pas loin d'ici.
Ouais.
Et ils ont des ateliers participatifs.
La recyclerie dans le 17e, entre le 17 et le 18, c'est ça,
hein,
boulevard Bessières, quelque chose comme ça, non?
Et c'est ça, ils en ont une aussi à Massy, à Boulogne, moi je suis celle de Boulogne.
Ouais.
Et ils sont, c'est des bénévoles qui sont super cool, en tout cas pour la plupart, et donnent leur retour d'expérience sur comment réparer des vélos. Donc c'est mon chantier du jeudi et du samedi. Je vais réparer des vélos avec eux.
C'est quoi votre objectif au-delà de la destination sur un tel voyage ?
L'objectif principal, c'est, je pense que c'est d'être fier de moi. C'était de faire quelque chose où je m'en souviendrai toute ma vie. Vous en parliez, hein, votre premier voyage, c'était en Australie, c'est ça ?
Ouais, c'était en Australie.
Bah, vous vous en souvenez encore aujourd'hui et...
Ouais, après, je suis pas plus fier de moi de l'avoir fait. Je suis très content de l'avoir fait, mais c'était pas mon objectif, mais c'est bien que ce soit le vôtre.
C'est ça, je pense me souvenir toute ma vie, de me dire j'ai fait un tiers de la planète, un quart si on compte tous les océans.
Ouais.
Et il y a un petit rêve d'aller plus loin, c'est pourquoi pas faire les États-Unis ensuite, comme ça, si je prends le tour de la Terre, j'en ai quasiment fait la totalité. On va falloir prendre le pédalo pour un moment parce que il y a pas mal d'eau, mais
ouais, oui. Mais alors justement, c'était une des questions. Vous traversez toute l'Europe, puis vous traversez l'Asie, et après un ferry ou un paquebot ou un avion pour aller au Japon.
L'idée, c'est de prendre un maximum de bateaux possible.
Ouais.
Donc un bateau entre l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, un bateau entre la Chine et la Corée, un bateau entre la Corée et le Japon. Normalement, ça se fait assez bien. Il y a des ferries qui passent. Ouais.
Et une fois que vous êtes arrivé sur place, vous avez déjà envisagé le retour ? Vous savez comment vous rentrez ?
Alors, une fois arrivé sur place, donc normalement 1er mars 2026.
Ouais, parce qu'il faut dire que vous partez le 1er avril 2025.
Et c'est pas une blague, hein, ouais. Je serai vraiment pas là le 2. Hein, si vous me cherchez le 2, ça sera encore un poisson d'avril. Ouais. Mais donc, je pars le 1er mars 2025 et j'arrive le. Enfin, 1er avril 2025 et j'arrive le 1er mars 2026 au Japon.
Ouais.
Et l'idée, c'est de remonter tout le Japon du sud jusqu'au nord. Et le retour, ce sera lui en avion. Donc un peu plus rapide, hein.
Ouais.
Environ 15 heures contre un an de vélo.
Comment vous vous y prenez pour faire votre itinéraire aujourd'hui ? Comment vous avez construit votre itinéraire ? Et puis aussi, comment vous planifiez vos étapes ? Vous vous donnez quoi comme objectif par jour ou pas d'ailleurs ?
J'ai planifié mon itinéraire sur des sites type Komoot,
ouais.
Principalement, mais je l'ai planifié avec les pays que je voulais visiter. En fait, vu que j'ai un an, bah, j'ai un luxe de temps infini, enfin, quasi en tout cas... assez long, qui me laisse le temps de faire des détours.
Ouais. Bon,
un détour en vélo, ça va vite sur un ou deux jours, voire plus.
Ouais.
Mais donc, j'ai choisi les pays que je voulais visiter, les zones sensibles à éviter. Il y avait les pays que je rêvais de visiter, mais la géopolitique fait qu'on est parfois obligé de les enlever le temps que ça se sécurise un peu plus.
Ouais.
Et ensuite, les routes, je ferai grande ville par grande ville, principalement.
Ouais.
Et un peu au compte... Je sais par où je passe, mais j'ai pas déterminé la route exacte. Je pense que chaque semaine, je regarderai la route que je ferai pour la semaine d'après, pour me laisser porter au fil des opportunités, des rencontres et des échanges.
Pour avoir un peu une idée, combien de kilomètres vous envisagez de parcourir ?
Par jour, on sera entre aux alentours de 70. Un petit peu plus en Europe parce que les routes seront plus confortables.
Ouais.
On est sur du bitume. Quand ça sera sur du sable, ça sera peut-être plus sur 50.
Ouais.
Mais l'idée, voilà, ça sera sur autour de 70 pour se laisser le temps de visiter.
Et en cumulé, ça fait combien de bornes ?
En cumulé, exact, si jamais je ne fais aucun détour et je ne suis obligé de sauter aucun pays, on est sur 19 000 km.
Ouais.
Mais moi, j'annonce 15, comme ça, même si des zones sensibles, je suis obligé de les survoler ou de les passer en avion, je suis sûr de faire 15 000 km.
Ouais. Ça fait combien de temps que vous vous préparez ? Ce que vous disiez, hein, c'est un pari il y a 2 ans, mais ça fait combien de temps que vous êtes vraiment, entre guillemets, dans le dur ?
Ça va faire depuis avril dernier, avril 2024, que j'ai vraiment décidé de choisir, de donner de mon temps à ce projet-là et de le rendre concret.
Et donc vous disiez, vous partez le 1er avril, vous partez d'où ?
Je pars de Vanves. Moi, je suis né en région parisienne à Vanves et j'accompagne une classe d'enfants de primaire qui rêvent de me voir partir. Donc j'ai choisi de partir de mon école primaire.
Ouais.
Jusqu'à Tokyo et donc direction Strasbourg pour quitter la France, parce que je passe par l'Allemagne.
Donc vous partez depuis la cour de récré où vous avez grandi, où vous avez appris à lire et à écrire ?
Exactement.
Trop bien. Et après, est-ce qu'on peut, d'abord j'imagine qu'on peut vous suivre, j'imagine ce que vous disiez tout à l'heure sur les réseaux sociaux entre LinkedIn, TikTok, YouTube, Instagram et autres. On peut se joindre à vous pour rouler une partie ou pourquoi pas tout le trajet d'ailleurs ?
Alors, s'il y a des gens assez courageux pour me suivre sur tout le trajet, hâte de les rencontrer. Moi, en tout cas, le départ se fera... j'ai des partenaires qui souhaitent me suivre, des amis.
Ouais.
Donc, le départ sera partagé et au plaisir de partager des kilomètres. Et après, dans tous les cas, ce projet, je pense rencontrer un tas de voyageurs à vélo et faire des bouts de chemin en fonction de ce que je veux visiter et découvrir. je vais peut-être être amené à me séparer, mais je suis persuadé que je ne vais pas être tout seul très longtemps.
Il est 14h14, on va faire la pause musicale de Rayon Libre, hein, chers auditeurs, chères auditrices. C'est le moment, vous voyez, de vous proposer une pause musicale à vous qui nous écoutez. Avant de se laisser bercer par Yaël Naïm, j'ai quand même deux petites annonces. Ce vendredi, 19h-23h, apéro radio chez Cause Commune. Apéro qui est ouvert à vous, auditeurs, auditrices. Venez, on a cette émission comme un vendredi. On a envie de vous tendre le micro, que vous nous racontiez pourquoi vous nous écoutez, ce que vous aimeriez trouver par ailleurs sur notre antenne. Aussi, je vous rappelle, cette émission est accompagnée par Bicycle. Un lien sur la fiche de l'émission avec une offre spéciale. Rayon Libre, vous pouvez économiser 30% sur la protection du vendeur avec le code Rayon Libre 30. Un lien est mis sur la fiche de l'émission. Et puis, comme on est à la moitié de Rayon Libre, je suis en compagnie de Florian Martin. On se retrouve après Yaël, I Walk Until. On se retrouve.
Cause commune, la voix des communs.
Vous êtes sur la radio Cause commune 93.1 FM et peut-être que vous nous écoutez aussi en podcast. C'est bien aussi les podcasts. Yaël et Camille hein, qu'on vient d'écouter, elles sont du genre à marcher jusqu'à, et mon invité, il est du genre à pédaler jusqu'à Tokyo. Florian Martin, oui c'est ça, pédaler jusqu'à Tokyo, c'est l'objectif hein.
C'est l'objectif en tout cas, le premier.
Ouais. Et vous me disiez juste avant la pause musicale, par exemple, vous passez par Strasbourg. À Strasbourg, vous avez des rencontres prévues ou c'est le hasard du voyage qui fera les rencontres ?
Aujourd'hui, c'est le hasard du voyage qui va faire des rencontres, même si je dois avouer que j'ai un objectif, un second objectif, parce que j'aime bien rajouter des difficultés, c'est que je veux aller à la rencontre des spécialités des gens, de comprendre comment les gens cultivent, comment les gens se nourrissent et cuisinent.
Ouais.
Et ça, c'est mon côté... expérience dans l'alimentaire, le fait de travailler dedans, et aussi le fait que je parte avec quelqu'un contre la faim.
Ouais.
Donc j'irai toquer à la porte de l'habitant, savoir ce qu'il cuisine, pouvoir partager un repas avec eux et à la table des restaurateurs.
Donc c'est aussi un voyage gastronomique que vous préparez, espèce de coquin, c'est ça ?
c'est un peu le but, c'est de me régaler au fil des pays, des spécialités.
Ah oui, mais ça, vous l'aviez pas dit, ça. C'est tellement malin, finalement, de partir en action contre la faim et puis partir à la découverte des spécialités locales. Donc, une bonne vieille choucroute à Strasbourg.
C'est le projet.
C'est canon. On va venir un peu sur la question de packlage. Alors, évidemment, quand on part comme ça, on a évoqué vite fait les pays que vous pouvez visiter, que vous pouvez pas visiter. J'imagine que vous êtes aussi dans les process d'obtention de visa, là, actuellement, c'est ça?
Pas dans la totalité, parce qu'il y en a beaucoup que je vais devoir déclencher au moment où je suis en route.
Ouais.
Parce qu'il y a des visas qui durent sur pas toute la totalité du voyage et qu'il faut déclencher au fur et à mesure. Donc je risque de me balader un peu dans les ambassades au fur et à mesure du projet.
Ouais. Mais alors moi, il y a quand même une question. Comment est-ce que vous organisez votre paquetage? Qu'est-ce que vous mettez dedans? Comment vous vous dites « Ah, ça, c'est pas indispensable, mais j'en ai quand même envie ». Comment vous organisez tout ça?
Ça, c'est la grande difficulté pour un premier voyage à vélo, parce qu'on a envie de tout prendre.
Ouais.
Et c'est que si on écoute les voyageurs qui sont déjà partis, qui nous disent surtout ne prends pas tout.
Ouais.
Donc j'ai fait un choix, c'est 3 t-shirts, 3 chaussettes, 3 caleçons,
ouais.
un pull, un manteau et ma caméra. Là. En fait, je me suis fixé un poids maximum qui est de 25 kilos.
De charge sur le vélo.
De charge sur le vélo.
En
plus du poids du vélo.
Ouais.
Dans tous les cas, mes sacoches vont me limiter en termes de volume, mais j'ai fait le choix donc d'embarquer un matos caméra qui est drone, caméra 360, un bel appareil photo et mon iPhone qui prend quand même de la place.
Ouais.
Je prends aussi des affaires de camping parce que je risque de dormir en tente pas mal de nuits.
Ouais.
Et donc j'ai fait.
Vous avez l'habitude, je vous posais la question tout à l'heure, c'est votre premier périple à vélo, mais vous avez l'habitude de camper et de dormir en bivouac sauvage ou pas du tout?
J'ai l'habitude du bivouac sauvage et j'avais pas mal randonné.
Ouais. En trail, donc en marche à pied.
En marche à pied, ouais.
Ouais, ok.
En sac à dos pour le coup. Ça, je maîtrisais. Ce qui, je pense, qui m'a donné aussi le goût de partir, c'est que je savais que les nuits à la belle étoile, les nuits sous la tente, j'aimais bien et que pendant un an, ça me dérangerait pas.
Ouais. Revenons à votre paquetage. Qu'est-ce que vous allez emmener qui n'est absolument pas indispensable, mais dont vous pouvez pas vous passer a priori?
Bah alors, j'ai tout un nécessaire de cuisine que je risque de devoir emmener.
Ouais.
Mais bon, je pense que partir le ventre plein, c'est essentiel quand on fait du vélo.
Ouais.
Donc je dirais, j'ai vraiment essayé d'être le moins matérialiste possible, hein, mais... Disons que vu que je fais du montage, je pars avec un iPad, tout le monde m'a dit « Oh, ça sert peut-être à rien
».
J'aime bien dessiner pendant mes montages, faire des belles vidéos, donc pas mal de matériaux de numérique où peut-être que ça me servira à rien. J'ai 4 batteries portables, j'ai un panneau solaire, j'ai...
Le panneau solaire, a priori, c'est indispensable, les 4 batteries. Après, est-ce qu'on en a besoin? Ça, c'est vous qui décidez, c'est pas moi.
J'espère pas en prendre trop, parce que... Mais au pire, je me suis dit que je pourrais faire de la donation dans certains pays si mon paquetage est trop lourd.
Vous faire un renvoi une fois que vous êtes à Strasbourg, avant de quitter la France, vous remettez tout ça dans tout ce dont vous n'avez pas besoin, direction... D'ailleurs, votre base, aujourd'hui, vous avez un appartement, ou comment vous faites? Vous le laissez, l'appartement?
Non, j'ai un appartement, je crèche gracieusement chez ma copine, qui me laisse transformer son appartement en local vélo.
Ouais.
Donc je la remercie et donc je laisserai mes affaires là-bas.
C'est intéressant ça. Alors c'est peut-être une question très personnelle, mais votre copine, elle en pense quoi du fait que vous partiez comme ça un an?
Disons que je l'ai rencontrée après avoir annoncé le projet.
Ouais.
Donc elle a...
C'est pas une surprise sortie du chapeau.
Ouais. Elle a gentiment accepté quelque chose qui était déjà annoncé et public. Et au contraire, elle me soutient dans le projet. Elle choisit les pays dans lesquels elle souhaite venir me voir.
D'accord, donc il y aura des récompenses dans certains pays où votre petite amie viendra vous retrouver.
C'est ça, et j'ai des amis qui eux aussi veulent me retrouver, donc de la famille aussi.
Est-ce que vous avez peur, mon cher Florian?
Ouais, j'ai peur. J'ai même très peur, et je pense que c'est normal et sain. Alors, faut faire attention parce qu'on entend beaucoup de gens nous annoncer des peurs à l'avance. Peur des chiens errants, la peur de la casse, la peur d'être seul. Ça, c'est la plus grande peur que j'ai, je pense, d'être seul pendant un an dans la difficulté. Et c'est pour ça que j'ai voulu me raccrocher une association pour pas être tenté d'abandonner, de baisser les bras.
Ouais.
Mais j'en suis conscient et je l'appréhende, donc elle ne m'arrête pas, on va dire, la peur. Mais j'ai peur, bien sûr.
Oui, mais c'est un moteur aussi, la peur.
C'est ça. Ça va peut-être me faire pédaler plus vite.
Avant de partir, là, est-ce que vous avez l'impression que partir à vélo pendant un an, c'est facile?
Ah non. Ah non, pas du tout. Parce que pédaler déjà 3 jours et se lever le lendemain, ça va être compliqué. Mais
justement, vous vous êtes entraîné un peu, vous avez fait, même si vous rentrez à la base dans l'appartement de votre copine, est-ce que vous avez fait 3, 4, 5 jours de suite à pédaler, partir 70 km avec un vélo chargé et rentrer ou pas?
J'ai déjà fait sur 2 jours, mais en région parisienne.
Ouais.
Donc, c'est facile si on a un problème de reprendre le train.
Ouais.
Mais je l'ai jamais fait très très loin. J'ai envie de le faire avant de partir. Et je reçois le vélo là dans quelques semaines. Donc, ça va être l'objectif de partir un long week-end sur un total de 300 km peut-être.
Ouais.
Pour vraiment sentir un peu le voyage, mais en avance.
Dans les conditions du réel, avec le vélo chargé, comme si vous partiez, ça y est, c'est comme si vous partiez.
Ah ben, dans tous les cas, il va falloir que je m'entraîne à porter la charge.
Évidemment, là, je vous pose la question, vous n'êtes pas encore parti, mais qu'est-ce qui, selon vous, sera le plus difficile ?
Je le disais justement, je pense que ça sera d'être seul. Ça sera le plus difficile.
On va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim. On est toujours sur Rayon Libre, on est toujours en direct. Il est 14h25. Abel, bah lui, il débunk le vrai du faux concernant les aménagements cyclables. Certains dénoncent que la place donnée au vélo à Paris est donnée au détriment du maillage du réseau bus. Et en vrai, quand on l'écoute, on se rend compte que c'est bien plus fin que ça. Abel, on t'écoute.
Bonjour. Je reviens une dernière fois sur le duel médiatique en cours entre un journaliste devenu président de la FNAUT et un influenceur cycliste des réseaux sociaux. Ce duel s'est concentré, avec des erreurs ou mensonges de part et d'autre, sur les longueurs de couloirs bus qui ont, ou auraient été, transformées en pistes cyclables. Oui, il y a eu des couloirs de bus remplacés par des pistes cyclables, rue de Rennes il y a longtemps, plus récemment rue de Clichy, rue Blanche, rue des Deux-Ponts. Il y en a eu peu. Mais est-ce le bon critère ? Un couloir de bus est un constat d'échec qui valide le fait que les voies de circulation générale sont embouteillées. Il est plus efficace de décourager une partie du trafic, en particulier en encourageant les modes alternatifs plus économes en espace. C'est d'ailleurs ce que font en relative harmonie, bien qu'elles gâchent beaucoup d'énergie à mettre en avant leurs divergences, la ville de Paris et la région Île-de-France. Bizarrement, aucun des deux duellistes ne semble avoir observé que dans de nombreuses voies où il n'y avait pas de couloir bus et où un aménagement cyclable a été installé, les voies de circulation générale, dans lesquelles le bus circule avec les autres véhicules, ont vu leur largeur diminuer, parfois sensiblement, ce qui a parfois entraîné des circulations plus difficiles. Mais surtout, il y a plusieurs endroits à Paris où des itinéraires de bus ont été, pour installer des aménagements cyclables, déroutés sur des itinéraires plus longs et plus complexes, ce qui a entraîné des pertes de temps, de régularité et des localisations d'arrêt parfois pénalisantes. J'ai déjà eu l'occasion de parler dans cette chronique de ces problèmes. C'est le cas rue d'Amsterdam pour le 21 et le 95, rue de Reuilly pour le 46, rue Belgrand pour le 102 et plusieurs bus noctiliens. Cette bagarre entre petits garçons dans la cour de l'école, l'un journaliste politique engagé, camouflé en président d'une grande association d'usagers, l'autre geek prétentieux, engagé de l'autre côté, feignant de tenir une position la plus vertueuse factuelle possible, est ridicule. « Tu m'as volé mon couloir bus. Non, c'est toi qui m'as piqué ma piste cyclable. » Cette querelle nuit à la fois au vélo et au bus et fait le jeu des défenseurs de l'automobile. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les projets à venir prennent en compte dès l'origine et cherchent à favoriser à la fois le bus et le vélo. C'est déjà parfois le cas, comme rue d'Alésia, mais ce n'est pas le cas général. Heureusement, au moins 2 candidats au poste de maire de Paris issus de l'actuelle majorité, David Béliard et Emmanuel Grégoire, ont annoncé leur intention, tout en continuant à mener une ambitieuse politique vélo, de la rééquilibrer en prenant mieux en compte les autobus. J'espère que ce sera aussi l'objectif de l'ensemble des candidats et candidates. J'y ai moi-même aussi apporté ma pierre en présentant, au nom de l'Association des usagers des transports d'Île-de-France, une proposition alternative au dédoublement prévu par la mairie de Paris de la piste cyclable des boulevards de Sébastopol et de Strasbourg, plus avantageuse à la fois pour les cyclistes, les usagers des autobus et les piétons. Elle a été bien accueillie dans les comités concernés et est actuellement à l'étude dans les services de la ville de Paris. À lundi prochain.
Cause commune. La voix des communs.
C'était Abel Guggenheim. Une dernière question pour vous, Florian, Martin. Quoi vous souhaitez d'autre que vous souhaitez un bon voyage ?
Je pense qu'on peut me souhaiter plein de rencontres, plein de souvenirs à pouvoir en mettre dans sa tête et de revenir avec des nouveaux projets.
Des nouveaux projets. Parce que vous avez d'autres projets, vous avez envie de partir sur d'autres choses ?
Je veux finir celui-ci, parce que je pense que c'est déjà un beau chantier.
Ouais.
Mais je pense que quand on revient d'un tel voyage, si c'est pas repartir, il faut qu'on remplisse sa tête avec des nouveaux projets.
Ouais. Mais peut-être que votre employeur, il voudra que vous restiez un peu, peut-être.
Ah ben, je compte bien rester, mais alors pourquoi pas lui proposer des projets où on peut travailler ensemble et peut-être même pédaler ensemble, qui sait.
Ouais. Eh ben, écoutez, tenez-nous au courant. On se fera un plaisir de relayer, en tout cas, comme on peut, avec les infos qu'on a, où vous en êtes dans votre périple. En tout cas, merci à tous et à toutes, auditeurs, auditrices. C'est la fin de Rayon Libre. Florian et vous tous, vous pouvez enfourcher votre vélo, peu importe hein, jusqu'où vous pédalez. Sachez évidemment qu'une journée sans pédaler est une journée gâchée. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres aventures sur Cause Commune, sur Rayon Libre. Bon lundi à tous.